Il plut pendant 4 ans, 11 mois et 2 jours. Il eut des époques où il ne fit que pleuvoter, et tout le monde se mit sur 131, se composa une mine de convalescents pour célébrer l'éclaircie. Mais bientôt l'habitude fut prise de ne voir dans ces pauses que les signes d'une recrudescence. Le ciel se vidait avec un grand bruit de casse en bourrasque dévastatrice, et le nord dépêchait des ouragans qui écornèrent les toits, démolirent les murs et déracinèrent les dernières souches des plantations. À l'exemple de ce qui était arrivé pendant la peste de l'insomnie, dont Ursula vint à se souvenir au cours de ses journées, le fléau lui-même était en train de susciter des moyens de défense contre l'ennui. Aureliano II compta parmi ceux qui firent le maximum pour ne pas se laisser vaincre par l'oisiveté. Il était passé à la maison pour quelques raisons fortuites, le soir même où Mr. Brown avait appelé la tourmente, et Fernanda voulut le dépanner avec un parapluie plus ou moins retourné qu'elle retrouva dans un placard. « Pas besoin, lui dit-il. Je reste ici jusqu'à ce que la pluie cesse. » L'engagement qu'il prenait là n'était certes pas inéluctable, mais il s'en fallut de peu qu'il ne le suivît à la lettre. Comme sa garde-robe se trouvait chez Petrakotès, il ôtait tous les 3 jours les effets qu'il portait et attendait en caleçon qu'on les lavât. Afin de ne pas trouver le temps long, il se fixa pour tâche de réparer les nombreuses détériorations qu'avait subies la maison. Il rajusta les charnières, graissa les serrures, revissa les verrous, redressa les espagnolettes. Pendant plusieurs mois, on le vit errer en tout endroit, muni d'une boîte à outils que les gitans avaient dû oublier du temps de José Arcadio Buendía, et nul n'aurait pu dire si ce fut à cause de cette gymnastique involontaire, de l'ennui hivernal ou de l'abstinence forcée que sa bedaine se dégonfla peu à peu comme une outre, que sa figure de tortue béate devint moins sanguine et moins protubérant son double menton, tant et si bien que, dans l'ensemble, il devint moins pachydermique et put de nouveau laisser ses propres souliers. À le voir poser des poignées de porte et dérégler les horloges, Fernanda se demanda s'il n'était pas en train de se laisser saisir du même vice de fer pour mieux défaire, comme le colonel Aureliano Buendía avec ses petits poissons en or, Amaranta avec ses boutons et son linceul, José Arcadio II avec les parchemins et Ursula avec ses propres souvenirs. Mais ce n'était pas exact. Ce qui n'allait pas, c'était que la pluie saccageait tout, qu'entre les engrenages des machines les moins fertiles poussaient des fleurs si on oubliait de les huiler tous les 3 jours, que les fils de brocart s'oxydaient et que sur le linge mouillé croissaient des algues de safran. L'atmosphère était si humide que les poissons auraient pu entrer par les portes et sortir par les fenêtres, naviguant dans les airs d'une pièce à l'autre. Un matin au réveil, Ursula sentit sa faim approcher en une sorte d'évanouissement paisible, et elle avait déjà demandé qu'on lui amenât le père Antonio Isabelle, sur un brancard s'il le fallait, quand Sainte Sophie de la Piété découvrit qu'elle avait le dos couvert d'une mosaïque de sangsues. Avant qu'elle n'eusse fini de la saigner à blanc, on les en détacha une à une, les faisant griller avec des tisons. Il fallut creuser des canaux pour évacuer l'eau de la maison, la débarrasser des escargots et des crapauds, afin que les sols pussent sécher, retirer les briques placées sous les pieds de lit et recommencer à marcher avec des souliers. Distrait par les multiples petits bricolages qui retenaient toute son attention, Aureliano II ne se rendit pas compte qu'il était en train de prendre un coup de vieux, jusqu'à cette fin de journée où, contemplant le précoce coucher de soleil dans un fauteuil à bascule, il songea sans frémir à Petrakotès. Il n'aurait vu aucun inconvénient à s'en revenir auprès de l'insipide amour de Fernanda, dont la beauté était devenue plus reposée avec l'âge mûr. Mais la pluie l'avait mis à l'abri de toute urgence passionnelle et lui avait infusé la sérénité spongieuse de l'inappétence. Il se plut à penser aux choses qu'il aurait pu faire jadis, avec cette pluie qui tombait déjà depuis bientôt 1 an. Il avait été l'un des premiers à apporter des plaques de zinc à Macondo, bien avant que la compagnie bananière ne les eût mises à la mode, dans le seul but d'en recouvrir la chambre à coucher de Petrakotès et de goûter la sensation d'intimité profonde que lui donnait à cette époque le crépitement de la pluie sur le toit. Mais ces souvenirs fous de sa jeunesse extravagante le laissaient eux-mêmes insensible, comme s'il avait épuisé lors de sa dernière fête la forte inclination à la luxure qui lui était échue en partage et que lui était seulement restée cette merveilleuse contrepartie de pouvoir les évoquer sans amertume ni remords. Il aurait pu se dire que le déluge lui avait donné l'occasion de s'asseoir pour réfléchir, et que cette fièvre des tenailles et des burettes avait réveillé en lui la nostalgie de tant de métiers utiles qu'il aurait pu exercer et n'exerça point dans sa vie, mais ne pouvait jurer de l'un ni de l'autre, car s'il laissait tourner autour de lui la tentation d'une existence plus sédentaire et domestique, Ce n'était pas pour en avoir longuement médité, ni par désir de faire pénitence. Cette attirance lui venait de beaucoup plus loin, comme déterré par la fourchette de la pluie, de cette époque où il lisait dans le cabinet de Melquiades les prodigieuses histoires de tapis volants et celles de baleines se nourrissant de bateaux avec tous leurs équipages. C'est par une de ces journées que, profitant d'un moment d'inattention de Fernanda, apparut sous la véranda le petit Aureliano, et son grand-père fut mis dans le secret de son existence. Il lui coupa les cheveux, l'habilla, lui apprit à ne plus avoir peur des gens, et l'on ne tarda pas à s'apercevoir qu'il avait tout d'un véritable Aureliano Buendía, avec ses pommettes saillantes, son regard étonné et son comportement solitaire. Fernanda s'en trouva soulagée. Il y avait longtemps qu'elle avait jugé démesuré l'orgueil dont elle avait fait preuve, mais elle ne savait comment y remédier. Plus elle songeait à des solutions, moins elles lui paraissaient raisonnables. Si elle avait su qu'Aureliano le second allait prendre les choses comme il les prit, avec une complaisance de bon grand-père, elle aurait pu s'abstenir de tant de détours et de délais et se serait trouvée depuis un an déjà délivrée de cette mortification. Pour Amaranta Ursula, qui avait déjà poussé de nouvelles dents, ce neveu fut comme un jouet insaisissable qui la consola de l'ennui de la pluie. Aureliano le second se souvint alors de l'encyclopédie anglaise à laquelle personne n'avait plus touché dans l'ancienne chambre de Mémé. Il commença par montrer les images aux enfants, particulièrement les planches d'animaux, et plus tard les cartes de géographie, les photographies de pays lointains et de personnages célèbres. Comme il ne savait pas l'anglais et pouvait à peine reconnaître les villes les plus célèbres et les personnalités les plus familières, il se mit à inventer des noms et des légendes pour satisfaire à l'insatiable curiosité des enfants. Fernanda croyait sincèrement que son époux attendait la fin de la pluie pour retourner chez sa concubine. Au cours des premiers mois de pluie, elle eut peur qu'il n'essayât de s'introduire jusque dans sa chambre et de devoir essuyer la honte de lui révéler que depuis la naissance d'Amaranta Ursula, elle n'était plus apte à se réconcilier avec lui. C'était là la cause de cette correspondance fiévreuse qu'elle entretenait avec les médecins invisibles, interrompue par de fréquents désastres dans l'acheminement du courrier. Dans les tout premiers mois, quand on apprit que les trains déraillaient dans la tourmente, une lettre des médecins invisibles l'avertit que les siennes étaient en train de s'égarer. Plus tard, quand ses rapports avec ses correspondants inconnus se trouvèrent suspendus, elle songea sérieusement à se mettre le masque de tigre dont s'était servi son mari lors du carnaval sanglant pour aller se faire examiner sous un faux nom par les médecins de la compagnie bananière. Mais parmi la flopée de gens qui passaient souvent à la maison pour apporter les ingrates nouvelles du déluge, quelqu'un l'informa que la compagnie était en train de démanteler ses dispensaires pour les transporter sous un ciel plus clément. Alors, elle perdit tout espoir. Elle se résigna à attendre que cessa la pluie et que le courrier redevint normal, et pendant ce temps puisa dans les ressources de son inspiration de quoi se soulager de ses secrets malaises, car elle eût préféré mourir plutôt que de se mettre entre les mains du seul médecin restant à Macondo, l'extravagant français qui se nourrissait d'herbes pour les ânes. Elle s'était rapprochée d'Ursula, certaine qu'elle connaîtrait quelques palliatifs à ce qui s'était cassé en elle. Mais la tortueuse habitude qu'elle avait de ne pas appeler les choses par leur nom la conduisit à parler du devant comme si c'était le derrière, à substituer, expulser, à accoucher et à remplacer les pertes par des brûlures, afin que tout fût moins honteux. De sorte qu'Ursula en arriva à la conclusion logique que ses troubles n'étaient pas utérins mais intestinaux et lui conseilla de prendre à jeun un sachet de calomel. Si la pluie n'avait pas contribué à cette souffrance, qui n'aurait rien eu d'impudique pour quiconque ne fût pas atteint également de pudibonderie, et si elle n'avait été cause que ses lettres se fussent perdues, Fernanda s'en serait moquée, car en fin de compte, toute la vie s'était passée pour elle comme s'il n'avait cessé de pleuvoir. Elle ne modifia en rien les horaires, ni ne mit aucun rite. Alors que la table se trouvait encore rehaussée par des briques, et les chaises posées sur des planches pour éviter aux convives de se mouiller les pieds, elle continuait à servir sur des nappes de lin et dans des services de Chine, et mettait les candélabres pour dîner, car elle considérait qu'on ne pouvait prendre prétexte des calamités pour relâcher les bonnes habitudes. Nul n'avait plus remis le nez dehors. Si cela avait dépendu de Fernanda, on n'y serait plus jamais retourné, non seulement depuis qu'il avait commencé à pleuvoir, mais à compter de bien avant, parce que les portes, d'après elle, n'avaient été inventées que pour être fermées, et que la curiosité pour ce qui se passait dans la rue était affaire de gourgandine. Pourtant, elle fut la première à y regarder lorsqu'on la prévint que l'enterrement du colonel Guirinaldo Marquez était en train de passer. Eh bien, qu'elle n'y eût alors assisté que par sa fenêtre entrebâillée, il la laissa dans un tel état d'affliction qu'elle se repentit longtemps de cet instant de faiblesse. On aurait pu difficilement imaginer qu'on voit plus misérable. On avait posé le cercueil sur une charrette à bœufs, que l'on avait surmontée d'un petit auvent en feuilles de bananier. Mais la pluie tombait avec tant de force et les rues étaient si embourbées qu'à chaque pas les roues s'enlisaient et l'auvent était sur le point de se démantibuler. Les trombes d'eau triste qui tombaient sur le cercueil étaient en train de lessiver le drapeau qu'on avait posé dessus et qui n'était autre que l'étendard sanglant et poudreux qu'avaient renié les plus vénérables des vétérans. On avait également disposé sur le cercueil le sabre avec ses glands de cuivre et de soie, le même que suspendait le colonel Guérinaldo Marquez au porte-manteau du salon avant d'entrer sans défense dans l'atelier de couture d'Amaranta. Derrière la charrette, certains nu-pieds, tous avec leurs pantalons relevés à mi-jambe, les derniers survivants de la reddition de Néerlandia pataugeaient dans la boue, tenant d'une main le bâton de paysan servant d'aiguillon et de l'autre une couronne de fleurs en papier décolorée par la pluie. Ils apparurent comme un mirage dans cette rue qui portait encore le nom du colonel Aureliano Buendía. Et tous regardèrent la maison au passage avant de tourner au coin de la place où il leur fallut demander de l'aide pour désembourber la charrette. Ursula s'était fait porter sur le seuil par Sainte Sophie de la Piété. Elle suivit les péripéties de l'enterrement avec une telle attention qu'il ne vint à personne l'idée de douter qu'elle le voyait. D'autant que de sa main levée d'archange annonciateur, elle battait la mesure au rythme des chaos du tombereau. « Adieu, Guérinaldo, mon fils !» s'écria-t-elle. « Salue les miens de ma part, et dis-leur qu'on se verra quand la pluie aura cessé !» Aureliano le second l'aida à regagner son lit, et avec la même désinvolture dont il faisait toujours montre à son égard, lui demanda la signification de cet adieu. « C'est la vérité, » lui dit-elle. « Je n'attends plus rien que la fin de la pluie pour mourir. » L'état des rues inquiéta Aureliano le second. Tardivement préoccupé du sort de ses animaux, il se jeta une toile cirée sur le dos et se rendit chez Petra Cotes. Il la trouva dans la cour, de l'eau jusqu'à la ceinture, essayant de renflouer le cadavre d'un cheval. Aureliano le second vint à sa rescousse, muni d'une barre de fer, et l'énorme corps tuméfié fit un tour sur lui-même et se trouva entraîné par le torrent de boue liquide. Depuis le début de la pluie, Petra Cotes avait passé tout son temps à débarrasser sa cour des animaux morts. Au cours des premières semaines, elle envoya des messages à Aureliano le second pour qu'il prît des mesures d'urgence, mais il avait répondu que rien ne pressait, que la situation n'était pas alarmante et qu'il réfléchirait à quelque chose dès que la pluie cesserait. Elle lui fit savoir que les pâturages étaient en train d'être inondés et que le bétail se réfugiait dans les hautes terres où il n'aurait rien à manger et se trouverait à la merci du tigre et de la peste. « On n'y peut rien, » lui répondit Aureliano le second. « Quand la pluie cessera, il en naîtra d'autres. » Petra Cotes avait vu mourir les bêtes agglutinées par régime entier, et c'est à peine si elle avait eu le temps de délivrer au couteau celle qui demeurait enlisée. Avec une sourde impuissance, elle vit le déluge détruire sans rémission une fortune qui avait été considérée à une certaine époque comme la plus importante et la plus solide de tout Macondo, et dont il ne restait rien que cette puanteur. Lorsqu'Aureliano le second se décida à aller voir ce qui se passait, il ne trouva que le cadavre du cheval et une mule squelettique dans les décombres de l'écurie. Petra Cotes le vit débarquer sans surprise, sans joie ni ressentiment, et à peine se permit-elle un petit sourire ironique. « À la bonne heure !» lui dit-elle. Elle avait bien vieilli, n'avait plus que la peau sur les os, et ses yeux, lancéolés de bêtes carnassières, étaient devenus tristes et apprivoisés à force de tant regarder la pluie. Aureliano le second resta plus de 3 mois chez elle. Non qu'il s'y sentît mieux, désormais, que dans sa propre maison où l'attendaient les siens, mais parce qu'il eut besoin de tout ce temps pour prendre la décision de se jeter à nouveau le morceau de toile cirée sur le dos. « Rien ne presse, » dit-il, comme il avait déjà dit dans l'autre maison. « Attendons, peut-être qu'il va cesser de pleuvoir dans les heures qui viennent. » Au cours de la première semaine, il put s'accoutumer aux ravages qu'avaient causé le temps et la pluie sur l'état de santé de sa maîtresse. Et peu à peu se mit à la revoir comme elle était autrefois, se remémorant ses joyeuses privautés et la délirante fécondité que son amour suscitait chez les animaux, et un peu par amour et un peu par intérêt, une nuit de la seconde semaine, il la réveilla avec de pressantes caresses. Petra Cotes ne réagit pas. « Reste tranquille à dormir, » murmura-t-elle, « ce n'est plus le moment. » Aureliano le second aperçut son reflet dans les miroirs qui surplombaient le lit et vit l'épine dorsale de Pétracotès comme une rangée de bobines de fil embrochées sur un axe de nerf fané, et il comprit qu'elle avait raison, non pas à cause du moment, mais d'eux-mêmes, parce que ces choses-là n'étaient plus de leur âge.